Jean-François Rey, bonjour.
Bonjour.
Pour le philosophe, est-ce que c'est important, les mots, par exemple folie ou déraison, est-ce que le fait d'utiliser l'un plutôt que l'autre peut avoir une signification ?
Alors ça a une signification d'ordre culturel. Quand Érasme, au VIe siècle, écrit l'éloge de la folie, comme son nom l'indique, c'est bien pour lui conférer une positivité, et non pas simplement un trait négatif. Mais à aucun moment, dans l'éloge de la folie, il n'est question de maladie. Hein. Un comportement déréglé, un comportement emporté, un comportement excessif, n'est pas forcément considéré comme un comportement pathologique. Hein. Donc pathologique, qui serait à soigner, quoi. Comme on dit vulgairement, va te faire soigner. Si vous voulez, il y a des moments dans la culture où le mot folie désigne un certain nombre de choses. Il y a des moments dans la culture où on parle plutôt de maladie mentale.
Si on prend, par exemple, le cas aux lames ici, de l'art brut,
oui.
De même qu'à Lausanne, en Suisse, je pense qu'il y a,
oui,
un musée également consacré à cela.
C'est le premier, celui de Dubuffet, oui, en effet.
Mm-hmm. Est-ce que c'est une façon de mettre en valeur les côtés positifs des gens qui ont des difficultés d'ordre psychologique ?
Alors, il faut préciser des choses. Hein. L'art brut a été, c'est une étiquette que Dubuffet a inventée après la guerre, pour désigner toutes les personnes qui ne sont pas des artistes, qui ne se considèrent pas forcément comme des artistes, toutes les personnes qui peignent, sculptent, décorent, écrivent, mais qui, la plupart du temps, n'ont pas fait d'études, et qui, pour certains d'entre eux, une grande partie d'entre eux, ont passé une bonne partie de leur existence dans un asile ou un hôpital psychiatrique.
C'est la différence un peu avec l'art naïf, non ?
Alors complètement, parce que l'art naïf est un parti pris de peindre, d'une certaine manière, délibéré, comme ça dit Denis Rousseau. Mais l'art brut, c'est désigne par excellence des gens qui ne sont pas donnés pour projet explicite d'être peintre ou sculpteur, qu'ils deviennent par la suite. Et ils deviennent tellement que ça occupe toute leur vie. Ici, au LAM, il y a eu l'an dernier une exposition remarquable sur un peintre et musicien qui a passé la plus grande partie de sa vie en hôpital, qui s'appelait Wölfli. Hein. Et Wölfli est devenu un artiste à temps complet. Alors, le pari, c'est qu'ils sont à appréhender comme des artistes, même s'ils n'ont pas eu le projet explicite de l'être. Et je précise que si dans l'art brut, il y a beaucoup de patients psychiatrisés, il y a aussi dans l'art brut des paysans, des facteurs, des gens modestes. Voilà, c'est ça l'art brut.
Cette approche de la folie vue par les philosophes, est-ce qu'elle est très différente de la folie vue par les psychiatres, les psychanalystes par exemple ?
Alors il faut distinguer. Hein, les psychiatres n'ont pas de formation philosophique, sauf exception, parce que ça les intéresse à titre personnel. Ce n'est pas prévu dans leur parcours. Aujourd'hui, on devient psychiatre avec très court temps de formation en psychiatrie. Et les psychanalystes, c'est autre chose. C'est une profession libérale qui intervient en psychiatrie, mais qui a, par certains côtés, beaucoup de points communs avec la philosophie, parce que c'est un apprentissage très long, collectif, on se forme avec d'autres. Hein, et effectivement, entre la psychanalyse, la psychiatrie et la philosophie, il y a des passerelles. Il y a toute une série de grands psychiatres, surtout allemands, disons dans les années 50, qui étaient à la fois psychiatres et philosophes, marqués par la phénoménologie, par Husserl, Heidegger, etc. Et l'un des derniers représentants de ces grands psychiatres, c'est Jean Houry, qui est directeur de la clinique de la Borde, et du côté philosophique, Henri Maltinet, dont on fête cette année le centenaire, toujours vivant, qui a su à la fois tirer l'essentiel de son enseignement philosophique, de l'observation des psychotiques, de la réflexion sur l'art, etc. Donc il y a toute une veine de la philosophie actuellement qui se nourrit de l'expérience psychiatrique.
Donc ces personnes malades, on les retrouve parfois dans la rue et aussi dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les centres de soins de jour, on appelle ça, hein, les unités d'aide qui sont dans les centres-villes parfois. Ces trois approches différentes, elles sont liées à la dangerosité des personnes ou à leur dépendance?
Alors il faut mentionner quelque chose que je n'ai pas mentionné, on les retrouve aussi en prison. Une bonne partie de personnes souffrant de troubles psychotiques graves, délirantes ou avec possibilité de passage à l'acte, ont développé des accès psychotiques en prison. Ils y ont été souvent pour un passage à l'acte, condamnés, mais au lieu de leur proposer des soins, on les a collés en prison. Et c'est une bonne partie de la population. Une bonne partie de la population psychotique se trouve en grande marginalité, dans la rue. Vous parlez de dangerosité, s'il faut savoir que les schizophrènes sont, non pas, comme le laissaient croire certains discours politiques, plus dangereux que les autres, mais ce qui est vrai, c'est que par rapport à la population qui vit dans la rue, c'est eux qui sont le plus souvent victimes des agressions, parce qu'ils n'ont aucun moyen de se défendre. Alors, la dangerosité est effectivement, malheureusement, l'angle sous lequel on appréhende cette question aujourd'hui, et le discours de l'actuel chef de l'État, du 2 décembre 2008 à Antony, allait dans ce sens, malheureusement. Dans le sens d'une peur entretenue, à partir de quelques 2-3 faits divers, bon, regrettables et pénibles, certes, mais de 2-3 faits divers, pour jeter un peu une ombre sur et attiser les peurs concernant la population souffrant de troubles psychiques.
Est-ce que mettre les gens en prison, ça coûte moins cher que de les confier à des personnels spécialisés dans les hôpitaux psychiatriques?
Je ne sais pas si ça coûte moins cher, mais en tout cas, la tendance à l'hospitalisation aujourd'hui, elle est une tendance d'hospitalisation courte. Hein. Et on voit souvent des gens, dès qu'ils vont un peu mieux, ils sont à peine stabilisés, qu'ils sont dehors.
Bon, certains aussi militent contre l'internement des malades.
Alors, il faut savoir que l'internement proprement dit est un épisode, souvent, de la carrière, entre guillemets, d'un malade mental, c'est-à-dire d'une personne qui a des troubles psychiques. Ça peut être un internement très court, suivi de soins à domicile, avec en général un centre médico-psychologique du quartier où il habite, puisque depuis la psychiatrie de secteur des années 60, on soigne davantage chez soi qu'à l'hôpital. Là, il faut le savoir, la plupart des gens sont soignés à domicile, ils sont suivis. Mais ils sont libres, ils sont pas... Bon. D'autre part, ce qui convient de dire, c'est que les grands hôpitaux psychiatriques qu'on connaît, souvent sont vides. Ils sont reconvertis, comme ici à Armentières par exemple, en séjours courts, avec des activités culturelles ouvertes sur l'extérieur. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, pour l'instant, on n'interne pas. Mais il y a une loi préoccupante, qui est la loi du 5 juillet 2011, donc récente, qui prévoit le traitement sous contrainte juridique. C'est-à-dire que si dans votre famille, vous avez quelqu'un qui ne va pas bien et qui, comme on dit vulgairement, pète les plombs trop souvent, eh bien, vous pouvez le faire interner, avec l'assistance d'un juge qui décidera si la personne peut ou ne peut pas sortir de son internement. C'est un peu le rôle qui était réservé au préfet lorsqu'on parlait d'internement d'office. Donc là, c'est le juge qui, en concertation bien sûr avec la famille, mais de son autorité de juge, décidera de la prolongation ou non de l'internement. Ce qui pose un problème, c'est qu'est-ce que vient faire la justice dans l'évaluation du degré d'autonomie ou de santé de la personne.
Est-ce qu'un juge est moins fiable qu'un préfet ?
C'est pas pareil. Est-ce que le préfet avait pour souci uniquement l'ordre public ? Donc c'est tout. Et dans les faits, c'était le médecin qui préparait l'essentiel du travail. Le préfet faisait signer. Hein. Donc on est revenu avec raison contre cette procédure qui a pu permettre à certains moments d'interner des gens dans une famille qu'on ne voulait plus voir. Il y a des questions d'héritage qui se sont résolues comme ça. Enfin, bon, on n'en est plus là. Mais on revient malgré tout à une psychiatrie de surveillance sécuritaire et une psychiatrie disciplinaire. Contre l'avis des psychiatres eux-mêmes, bien entendu. Hein. Mais c'est ce que je vous dis là, c'est la tendance. Voilà. On peut espérer qu'on inversera cette tendance. Mais en tout cas, voilà, elle est comme ça aujourd'hui.
Alors, est-ce que les conditions de vie actuelles, est-ce que la société favorise la schizophrénie, par exemple ?
Alors, on parle beaucoup de la schizophrénie, mais la schizophrénie est une psychose parmi d'autres. Hein. Alors, je n'ai pas les éléments épidémiologiques, statistiques, il y a des gens qui connaissent ça mieux que moi, pour vous dire s'il y a plus de schizophrènes que de maniaco-dépressifs ou ce que vous voudrez. Ce qui est nouveau, ce qui apparaît maintenant dans les enquêtes, c'est la souffrance au travail. C'est la suicidalité importante chez les adolescents et chez certaines personnes qui travaillent notamment dans le secteur médical ou médico-social, dans les hôpitaux notamment. Hein. Donc il y a y compris certainement des symptômes nouveaux qui apparaissent, comme le burn-out, des choses comme ça. Toute la question est de savoir, à l'avenir, si on considérera que ce sont des phénomènes qui relèvent de la psychiatrie ou de la psychanalyse, ou si ce sont simplement des troubles qu'on peut soigner par des médicaments et par des théories comportementales.
Est-ce qu'on peut avoir une idée, au sein des familles, des problèmes qui peuvent se poser par rapport au fait que dans cette famille, il y ait des malades mentaux ? Est-ce que l'aide psychologique apportée à la famille est suffisante pour que cette famille puisse trouver un relatif équilibre ?
Là aussi, je ne peux pas vous répondre précisément par des chiffres, bien entendu. Mais il y a ce qu'on appelle les théories systémiques, où effectivement on fait pratique des thérapies familiales, c'est-à-dire qu'on écoute l'enfant, l'adolescent avec ses parents, avec les gens qui l'entourent, bien sûr. Donc je crois qu'aucun psychiatre ne dirait que... il est clair qu'on ne peut pas soigner quelqu'un si on n'implique pas les parents, l'entourage. Ça, c'est clair. Je crois que tout le monde partage un peu, plus ou moins cette idée.
Alors, pour les gens qui n'ont pas de relation particulière avec cette maladie de leur entourage, est-ce qu'avoir une formation minimale, une compréhension de la psychologie de certains malades, ça peut aider ? Par exemple, j'ai vu des gens formés par la ville de Lille, qui sont des agents municipaux et qui, le matin, sont de service à 4, 5 heures, 6 heures, et à qui on donne une formation pour faire la distinction entre des personnes SDF, des malades mentaux, etc., pour éviter d'intervenir de manière inappropriée. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de formation ?
Je ne sais pas jusqu'où elle va, cette formation. Je pense qu'effectivement, c'est bien d'attirer l'attention sur ce qui est le plus visible, hein, sur ce qui est plus patent dans la souffrance des gens qui sont démunis, qui sont dans la rue ou qui vont manifestement pas bien. Je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être inscrit au programme de formation de certaines écoles, à commencer d'ailleurs par les facultés de médecine. Hein. Je précise quand même que aujourd'hui, on forme les infirmiers psychiatriques en 3 mois avec un stage de 6 semaines, alors qu'avant quand même les infirmiers, avant la suppression de la spécificité du diplôme d'infirmier psychiatrique, la formation était de 3 ans. Donc on a asséché une culture psychologique très importante, qui était celle des infirmiers psychiatriques. Et l'infirmier psychiatrique, ne pas oublier que dans la figure tutélaire de la psychiatrie moderne, c'est-à-dire celle de Pinel, Pinel n'est rien sans son assistant Pouchin, qu'on appellerait aujourd'hui infirmier psychiatrique. Et voilà. Donc aujourd'hui, mais c'est valable aussi dans l'enseignement, hein, dans la formation des enseignants, je veux dire, aujourd'hui, on fait du très rapide. Et de quelque chose de très peu en lien avec le lieu de travail.
Donc je suppose que la psychiatrie, c'est aussi, dans nos universités lilloises, un domaine de recherche. Est-ce que les recherches qui sont faites actuellement trouvent leur écho dans les pratiques et les règlements qui sont mis en place, notamment en France ?
Alors il faut distinguer plusieurs choses. Hein. D'abord, le cursus de formation, effectivement, des médecins, généralistes d'abord, et ensuite spécialisés en psychiatrie. Ce que j'en sais, c'est que nous sommes passés d'une psychiatrie, celle des gens qui disparaissent maintenant, psychiatrie de l'après-guerre, humaniste, institutionnelle, qui a abouti d'une part à la rénovation des asiles et d'autre part à la psychiatrie de secteur. Bah, aujourd'hui, ce grand acquis de la résistance est remis en cause.
Alors Jean-François Rey, on entre en période de campagne électorale. Est-ce que la psychiatrie ou les thèmes dont qu'on vient d'aborder aujourd'hui, ça peut être l'objet de questionnements, et lesquels seraient urgents ou importants ?
Je pense que il y a plusieurs choses qui sont importantes. D'une part, en matière de soins, en matière de soins psychiatriques en particulier, il faut toujours mettre en avant le singulier. On sait que les gens vont mal quand ils sont dans des ensembles homogènes où on s'intéresse à des populations et non pas à des individus. La première chose, la singularité. Ensuite, la qualité de l'accueil. Une admission en hôpital ou dans une clinique n'est pas un accueil, il ne s'agit pas de remplir une fiche, etc. Donc je crois que c'est ça les points. L'accueil dans l'hôpital, l'accueil dans la cité aussi. Hein, je crois que ce sont ces deux points-là qui sont les plus sensibles.
Jean-François Rey, je vous remercie.
Merci à vous.